Et je tenais justement à vous parler de ce travail que j'ai effectué sur Jacques Villon. Alors, comme je vous disais en aparté, c'est venu à l'occasion du travail sur Jean Cocteau, effectivement. Et c'est mon éditeur qui m'a demandé d'aborder les artistes qui ont œuvré dans la cathédrale de Metz. Et c'est là, je reviens sur ce que je vous ai déjà dit initialement, qu'on parle d'un événement qui est peu connu. Et que je vous reparlerai, c'est d'introduire des artistes, des grandes signatures de l'art contemporain dans une cathédrale. Et c'est quelque chose qui nous paraît tout à fait normal actuellement, mais à l'époque, c'était presque sacrilège. Il y avait une dichotomie entre la sphère église et puis l'art de notre temps. Il y avait une grosse rupture. On n'était plus à la Renaissance, là. Hein. On était vraiment. Et puis, comme je disais, des gens qui étaient proposés comme légers, Picasso a été refusé. Parce que le chapitre considérait qu'ils n'étaient pas aptes à entrer dans une cathédrale, puisque, étant du Parti communiste, c'est n'importe quoi. Voyez. On a loupé des occasions de faire briller des artistes comme ça dans des monuments comme une cathédrale. Et Cocteau, pareil, il a été recalé, pas pour son appartenance au Parti communiste, il ne l'était pas, mais bon, certainement pour ses mœurs et tout. Bon, vous voyez, les jugements moraux qu'on plaquait à des artistes en leur refusant l'entrée dans un monument comme une cathédrale. Heureusement, l'insistance qu'il y a eu de gens éclairés comme l'architecte en chef des monuments historiques de l'époque, Robert Renard, qui a beaucoup insisté, qui a beaucoup reçu sur lui-même pas mal de coups, parce que l'administration ne suivait pas non plus. Il avait contre lui le clergé et puis l'administration, parce que l'administration, c'est les inspecteurs généraux des monuments historiques, qui n'est pas toujours très éclairé non plus, très au fait de l'art contemporain. Oui, ils étaient quand même très fermés dans leur catégorie mentale et souvent d'un art très dépassé. Donc, il fallait tout œuvrer, faire évoluer les consciences et tout, pour faire accepter l'art de notre temps dans une cathédrale. Et c'est là qu'est apparu donc Jacques Villon, qui a été en 57, qui a réalisé les vitraux à la cathédrale de Metz. Le premier artiste contemporain dans une cathédrale, c'est Jacques Villon. Il y a eu des églises où il y a des artistes contemporains, hein, je ne dis pas, mais en tant que monument phare, c'est-à-dire cathédrale, le premier qui a été introduit dans une cathédrale, c'est Jacques Villon. Alors je vais commencer par présenter Jacques Villon, puis après on parlera de la péripétie à la fin. Ce sera la seconde moitié, si vous voulez, de ce que je vais dire. Parler, c'est de son introduction dans une cathédrale. Comment il a pu ressentir cela? Comment il a pu l'exprimer, son art, dans une cathédrale? Quelles sont les contraintes particulières? Parce qu'il y a eu des contraintes. On lui a imposé des thèmes et tout. Mais comment il a pu aussi, en tant qu'artiste, se dégager, trouver sa liberté, hein? En jouant sur les thèmes, on verra. Il a joué avec beaucoup d'audace, si vous voulez, par rapport au thème qui lui était imposé pour garder toujours sa liberté. Donc, on va parler de Jacques Villon qui, comme le titre que j'ai donné, qui se présente comme un artiste qui arpente le visible. Alors, ça fait un peu bizarre. Il arpente comme un géomètre, vous voyez, un mathématicien. Et puis, c'est en fait la définition, vous comprendrez mieux par la suite, de tout son art. Hein, c'est quelqu'un qui avait une fête. Comme tous les Duchamp, voulait faire une œuvre de réflexion. Et en se basant sur le rationnel, sur les mathématiques, et on verra, sur le traité de la peinture de Léonard de Vinci, bon, la section d'or. Donc tout ça, il va le développer fortement. Et on le verra, sa traduction de manière plus lumineuse encore à la fin, à travers les vitraux. Il est né, alors Gaston Duchamp, parce que beaucoup, on dit Jacques Villon, oui, c'est qui? Ben, quand on dit son nom d'état civil, c'est Gaston Duchamp. Donc le frère aîné Duchamp, qui est né le 31 juillet 1875 à Danville dans l'Eure, mais il a vécu la plupart de son temps à Blainville, dans la région de Rouen. Hein. Donc c'était quelqu'un qui, parce que son père était notaire de Blainville. Donc, et puis quelqu'un qui était assez réservé, voire discret, alors qu'il était le chef d'une grande famille de peintres, parce que sur les 7 enfants qu'a eu le père Duchamp, le notaire. Les 7, il y a eu d'abord Gaston Duchamp. Le deuxième, on a parlé de Maurice, de Maurice Raymond Duchamp, qui s'est appelé après Duchamp-Villon, grand sculpteur. Ensuite, le troisième, Marcel Duchamp, alors le père de l'art contemporain, du ready-made et tout. Et puis, il y a aussi la petite Suzanne Duchamp, qui était artiste peintre, et qui s'est mariée à un autre peintre qui s'appelle Jean Crotty. Donc, sur les 7 enfants, il y a 4 enfants artistes. Alors vous me direz, mais c'est quand même étonnant. Qu'est-ce qui prédisposait toutes ces familles, du moins les 4 enfants sur 7, à devenir artistes, peintres ou sculpteurs? Rien a priori. Le père était notaire, donc a priori, hein. Sauf que si on regarde dans la famille, le grand-père maternel, Nicole, il s'appelait Nicole, Émile Frédéric, je crois, oui, Émile Frédéric Nicole, qui s'adonnait à la peinture et à la gravure. Peut-être aussi sa mère, la mère des Duchamp, qui s'occupait aussi des services de table, elle peignait les services de table. Mais c'est plutôt anecdotique. Je pense que la racine, au départ, de la vocation des Duchamp, c'est le grand-père, Nicole. Nicole, et Jacques Villon allait tous les dimanches, c'est son grand-père, pour s'essayer au dessin et à la gravure. Et à 16 ans, il a commencé à faire sa première gravure. Alors, et pourquoi il s'appelait Jacques Villon? Alors, on pose la question. L'aîné, il aurait pu garder Gaston Duchamp. Parce que Jacques Villon, c'est quelqu'un qui ne voulait pas causer de soucis à son père. Parce qu'à l'époque, vous savez, il n'était pas très bien vu d'avoir dans la famille des gens qui étaient aux Beaux-Arts, artistes peintres, etc. C'est un peu comme une certaine époque au XVIIIe, lorsqu'on était comédien, vous voyez. Donc, dans la bourgeoisie locale, à l'époque, il faut se replacer. Il est né en 1875, donc replacer à l'époque, ce n'était pas toujours bien vu dans des communes rurales et tout. Et d'ailleurs, le père, au départ, les a forcés, les deux premiers, à faire des études sérieuses, entre guillemets. Jacques Villon, des études de droit, le père étant notaire, vous voyez. Et puis le deuxième, des études de médecine. Mais ils ont, que ce soit Jacques Villon et Raymond Duchamp Villon, ils n'ont pas été au bout de leurs études. L'art a supplanté le reste. Et puis quant à Marcel, lui, il n'a rien suivi du tout. Le père ne lui a même pas imposé d'études, sachant déjà un esprit très libre de Marcel Duchamp. Donc il n'a pas insisté pour Marcel Duchamp. Donc, vous voyez, donc, rien au départ ne prédestinait, sauf qu'il y avait le grand-père. Et puis, bon, malgré tout, le père, qui était notaire, était quelqu'un qui est très ouvert d'esprit, malgré tout, hein. Parce que, bon, il y avait quand même 4 enfants qui sont devenus artistes, c'était pas évident non plus. Et puis, il les a aidés. C'est-à-dire, à tous, il a donné une partie de son héritage. Il a bien réglé ça, d'ailleurs. Et Marcel Duchamp, s'il a pu vivre, à un moment donné, il a arrêté totalement la peinture. À partir de 1912, il a arrêté totalement la peinture. S'il a pu vivre, il l'a dit, c'est grâce à son père. Donc, vous voyez, donc, une famille qui était porteuse de talents et qui a beaucoup aidé aussi à développer les talents de ses enfants, le père. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce qui caractérise l'art de Jacques Villon, il s'est adonné très tôt au dessin, à la gravure. Et Dora Valier, qui est un critique d'art, a décelé très tôt les qualités de Jacques Villon lorsqu'il s'adonne à la gravure. Il disait que la gravure ne tolère pas l'impréparation ou l'étude. Pour graver, il faut que le dessin soit abouti. D'où l'importance d'une bonne exécution, une bonne pratique du dessin. Donc, la gravure lui permet de se libérer de ses émotions au profit de la réflexion. D'où cette affirmation ultérieure qu'a eue Jacques Villon. En art, l'intelligence l'emporte sur l'intuition. Et alors, Marcel Duchamp, il se rappelle très bien de son frère aîné, lorsque il voyait se livrer frénétiquement à ses multiples dessins. Et même lorsque Villon dessinait d'une manière si naturelle que disait Marcel Duchamp, si l'inspiration lui venait, sans qu'il eût un crayon sous la main, il se mettait à tracer la scène dans l'air avec ses doigts. Oui. Donc il était pris par le jeu de la création, mais ça ne veut pas dire que la rigueur qu'il imposait dans l'exécution, dans la réflexion, lui permettait quand même d'avoir de l'émotion. Vous voyez. Donc il a trouvé un équilibre entre une partie très rationnelle, très réfléchie, et il n'empêche que l'émotion rejaillit, on verra dans ses œuvres, dans son travail. Donc toujours. Et ça, c'est la marque de fabrique des Duchamp. C'est la partie réflexion. Ils ont apporté les Duchamp, la réflexion, l'intelligence dans l'art. Oui. Par rapport aux impressionnistes, qui étaient plutôt le côté émotionnel, le côté impression, eux, ils ont apporté le côté rationnel, on le verra. Et c'est à la suite, surtout, d'un certain Cézanne. Cézanne qui a dit qu'il fallait traiter la nature selon des sphères, des cubes, etc. Oui, sur des modèles presque géométriques. Ils suivent le parcours de Cézanne, qui a été dessiné déjà, qui est mort en 1906, mais qui a été fondateur pour ces peintres-là. Voyez. Et Cézanne a mis à jour quoi? Il a mis à jour, si vous voulez, ce mouvement qui est devenu le cubisme. et aussi l'arabe serait. Donc, dans la suite, les frères Duchamp ont suivi ce cheminement. Et alors, si on reprend Jacques Villon, il s'installe à Paris en 1895 à Montmartre. À Montmartre, d'abord, il travaille pour des journaux humoristiques. Il fait des dessins humoristiques et tout pour vivre, pour ne pas être dépendant de son père. Et ensuite, au Courrier français pendant 13 ans. Il quitte Montmartre vers au début du siècle, 1906. Il quitte Montmartre parce qu'il trouvait que Montmartre, c'était trop bruyant. Bon, il y a eu beaucoup d'artistes, mais il y a eu beaucoup de fêtes aussi. Et c'est quelqu'un qui a besoin de concentration. Vous voyez, c'est quelqu'un, bon, qui n'aimait pas trop la fête. Hein, il faut le dire. Bon, on voit d'ailleurs, j'ai plus la photo. Donc là, on voit justement, je voulais vous montrer les trois frères. Parce que j'ai parlé des quatre enfants. Suzanne, elle venait, mais moins souvent. Ce qu'on voyait souvent, c'est les trois Duchamp. Les trois frères Duchamp. Alors, vous avez à gauche, reconnaissez Marcel Duchamp. Au milieu, c'était Jacques Villon, Gaston Duchamp. Et à droite, Raymond Duchamp Villon. Il voulait s'appeler comme son frère. Il a accroché le nom de Villon. Mais il a gardé Duchamp-Villon. Voyez. Donc, les trois frères. Et ça, c'est une photo à Puteaux en 1912. Alors justement, en parlant de 1906, il a quitté Montmartre pour un atelier tranquille à Puteaux. Puteaux qui est maintenant la Défense. Et Malraux, comme je disais, une petite une anecdote, a tout fait pour éviter qu'on le gêne dans les travaux, parce qu'il y avait la Défense qui se mettait en... Il est mort en 63. Hein. Et jusqu'en 63, on a préservé son petit atelier. Et à sa mort, tout a été rasé. Alors ensuite, on voit mieux d'ailleurs, là, on voit d'ailleurs derrière l'atelier, la maison, vous voyez, derrière. Alors, à gauche, on a Jacques Villon, Gaston Duchamp, au milieu, Raymond Duchamp-Villon, et à droite, on reconnaît bien sûr Marcel Duchamp. Là, c'est plus tard, il est déjà âgé, on voit Jacques Villon. Ça donnait, donc il dessinait sur la toile d'abord, hein, il faisait l'esquisse, il travaillait l'esquisse d'abord avant de peindre. Donc quelqu'un toujours très minutieux, très ordonné, mais, qui réfléchissait. Et là on le voit âgé aussi avec Marcel Duchamp. Donc ils étaient toujours en lien, malgré des directions très différentes, surtout que va adopter Marcel Duchamp par rapport à la peinture de son frère aîné, ils ont resté une grande proximité. Et pas seulement parce qu'il se sentait bien entre frères, mais même, il avait beaucoup d'estime pour son frère aîné, Marcel Duchamp. Son travail, il l'épatait. Et donc, ce n'est pas quelque chose qui signifiait rien pour lui, au contraire. Donc, alors, on va voir la suite. Là, on le voit un peu plus tard. Ah oui, ça, c'est premier. Vous voyez, on parlait justement de la précision du dessin. Oui. Propre, on dirait presque de la gravure. Vous voyez ? Et on voit déjà la volonté de Villon de maîtriser vraiment, vous voyez, comme un ordre mathématique, vous voyez, le visage du personnage, etc., par une configuration très géométrique toujours. Donc avant le cubisme déjà, c'est avant le cubisme, hein, il avait déjà cette intuition de mettre les choses au carré, vous voyez, de cerner bien les choses et de vouloir ordonner le portrait ou le personnage. Bon, ça c'est... Ensuite, on verra le cubisme. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y avait les frères Duchamp qui étaient après regroupés autour à Puteaux, comme on a vu les photos, mais pas seulement les frères Duchamp, il y avait d'autres qui vont suivre, d'autres artistes qui vont suivre Marcel Duchamp et surtout Jacques Villon, Marcel Duchamp et Maurice Duchamp-Villon, c'est le tchèque Kubka, l'anglais Tobion, aussi Glaise, Metzinger, Picabia, et bien d'autres, comme Léger même, Lafrenet et Le Fauconnier. Donc, beaucoup d'artistes vont suivre les frères Duchamp. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque, il y a eu une révolution. Ils ne se rendaient même pas compte, d'ailleurs, en 1907, il y a eu la révolution, c'est-à-dire à Montmartre, sur l'autre colline, il y a eu une opposition de deux collines, ça c'est important à dire. Il y a la colline de Puteaux, il est frère Duchamp, puis la colline de Montmartre, avec qui ? Avec Braque et Picasso. Et c'est la colline de Montmartre que naît le cubisme en 1907, avec justement l'œuvre magistrale, Les Demoiselles d'Avignon, 1907. Alors ce qui est incroyable, c'est que les frères Duchamp, ils vivaient en vase clos, ils ne s'occupaient pas du tout, ils n'avaient aucun contact avec Braque ni Picasso. Ils vivaient dans leur monde à eux, sans contact. Or, Ils ont pu voir ces œuvres-là, dont celle que vous voyez là, notre demoiselle d'Avignon, à la galerie Kahnweiler, et ils ont pu voir des œuvres justement de Picasso et de Braque. Les frères Duchamp n'échappent pas à l'attractivité. Ils sont vraiment séduits. Et puis le plus séduit, c'est Jacques Villon, qui est complètement tombé à la renverse. Il veut dorénavant plier, comme il dit, le visible au visuel. Et tel un géomètre, arpenter le visible. C'est là vient l'expression. Tel un géomètre, il veut arpenter le visible à la manière de justement du cubisme. Et le cubisme, c'est un terme qui est apparu grâce à Matisse. Lorsqu'il parlera de cube à propos d'une toile de Braque au Salon d'automne en 1908. Donc, vous voyez, il y a un mouvement qui se dessine sur l'autre colline qui s'appelle le cubisme. Mais c'est le cubisme qui est totalement... On verra ce que vont faire les frères Duchamp. Ça, c'était à l'époque une toile qu'avait peinte, comme s'appelle, Jacques Villon. Il n'était pas encore sous l'influence du cubisme. Ça s'appelle Sonate. C'est plutôt une toile... Non, c'est pas Sonate, c'est la Grande Dame en bleu. La Grande Dame en bleu, c'est plutôt une inspiration, plutôt, on voit, néo-impressionniste. Donc on n'est pas encore dans le cubisme. C'est juste avant la révolution cubiste. Là, c'est la première fois, la première œuvre cubiste, c'est celle de son frère Marcel Duchamp. Il s'est inspiré, on voit, du mouvement qui était généré par Picasso et Braque, mais c'est un cubisme encore léger, évanescent. Vous voyez, c'est la première toile, je crois que c'est de 1912, Sonate, 1911, Sonate, créée par Marcel Duchamp. Première œuvre cubiste des Duchamp. Donc l'électrochoc a beaucoup joué du côté de Jacques Villon. Il voulait un ordre géométrique, comme je disais, semblable à Cézanne. Et plus loin dans le temps aussi, remonter à Poussin et Léonard de Vinci. Il voulait un ordre... comme on appelle ça, qui soit académique, qui soit posé. Il ne voulait pas un art qui soit évanescent, il voulait un art qui repose sur du solide, une construction solide. Et c'est pour ça qu'il trouvait beaucoup de choses intéressantes au niveau du cubisme. Et le cubisme qui est en fait la traduction de ce qu'a voulu Cézanne. À sa mort, il disait « Traiter la nature par le cylindre, la sphère, le cône, le tout mis en perspective ». Et tout ça, ça convient parfaitement au frère Villon, au frère Duchamp, et à Villon en particulier. Et un vrai cubisme qui nous ramène au rationnel, à un ordre classique. Et ça va plus loin, parce que si Cézanne, lui, il suit la nature, Jacques Villon va aller plus loin que la nature. Il se cantonne plutôt du côté même de Descartes, c'est-à-dire du côté un retour du rationnel et d'un vrai classicisme. Et tout ça pour mettre en relation... permettent une relation entre tradition et modernité. Pour résumer, le cubisme offre aux frères Duchamp et à Jacques Villon quelque chose, un outil formidable pour permettre justement de concrétiser leur façon de mettre de la pensée dans l'art, tout simplement. Si on veut traduire ça comme ça, c'est mettre de la pensée dans l'art, mettre une architecture dans l'art, une ossature qui tienne et qui soit pérenne. Alors, justement, c'est là que je viens à la grande distinction entre les deux cubismes. Le cubisme de Montmartre, c'est un cubisme, alors justement je vais remettre là, on voit les demoiselles d'Avignon, où l'origine, c'est plutôt l'influence des masques africains, des arts premiers. On voit bien ici, vous voyez, les masques, vous voyez, c'est des masques africains. Or, le cubisme des frères Duchamp, c'est autre chose comme origine. C'est plutôt une approche plutôt positive, scientifique, rationnel. Oui, c'est pas du tout les arts premiers. Oui. On verra d'ailleurs les œuvres de Jacques Villon. Attendez, là. Alors ça, c'est l'œuvre maîtresse de Jacques Villon, 1913, Les soldats en marche. Donc, ce cubisme-là qui va travailler, c'est pas du tout le cubisme masque africain, arts premiers. C'est une approche nettement positive, comme il dit, et scientifique, voire, bon, c'est un terme un peu philosophique, néo-kantienne, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire le retour à la raison par rapport à l'idéalisme d'Hegel. L'idéalisme d'Hegel, c'est-à-dire le retour au primat de la science sur l'idéalisme. Donc, c'est tout à fait une autre école. On a affaire à, comme on appelle ça, un écartelement, on appelait ça du cubisme. deux écoles cubistes, mais totalement différentes, dont les fondements sont totalement différents. Et grâce au Duchamp, on va voir un cubisme beaucoup plus scientifique, beaucoup plus réfléchi, hein, et moins à la traîne, si vous voulez, c'est pas négatif ce que je dis, des arts premiers, vous voyez, de retrouver un peu l'art brut, vous voyez, qui était le fait de Braque et de Picasso. Alors justement, cette œuvre, on va parler de cette œuvre. Cette œuvre qui est magistrale. Ah bon, avant de parler de cette œuvre, j'aimerais parler aussi de l'incidence du traité de la peinture. Alors j'avais... Ah oui, c'est ça. Traité de la peinture. C'est un traité de la peinture qui est paru en 1900, commenté en 1910. Bon là, je n'ai pas trouvé la bonne version, c'est 1921. Mais la vraie version, c'est 1910. Elle a été, pour Jacques Villon, une révélation. Ça a été commenté. Alors, traité de la peinture, c'est traité de la peinture de Léonard de Vinci, qui a été commenté par Joséphin Péladan en 1910, et qui aborde tous les thèmes, tous les théories de Léonard de Vinci. Théorie, section d'or, les théories du tracé pyramidal, qui sont pour lui une vraie révélation. Un modèle de mesure, de proportion et de composition offrant une harmonie visuelle. Ainsi, le nombre d'or, la suite de Filo Balacci, oui, c'est toutes des mesures très scientifiques qui permettent d'aider à mettre en place une architecture dans l'art. La vision pyramidale. Alors ça paraît abstrait, mais on verra que le chiffre 3, c'est un chiffre magique, c'est Jacques Villon. On le verra dans les vitraux. On verra. Et toujours cette structure pyramidale. C'est-à-dire, on verra les triangles pyramidaux qui vont exercer une grande influence, on verra dans les vitraux, qui vont s'ajouter, porter à une certaine force son œuvre, en donnant une force, un mouvement, quelque chose qu'il va beaucoup utiliser dans son œuvre. Alors, cette mesure idéale, la section d'or, c'est pour ça qu'on a appelé Puteaux, l'école de Puteaux, l'école cubiste, la section d'or aussi. Alors, justement, on va parler de cette œuvre de... Où j'étais, je ne sais plus où j'en suis. Là. Alors, ça, c'est l'œuvre maîtresse de Jacques Villon. Les Soldats en marche, de 1913-1914. Alors, ce qui est intéressant dans cette œuvre, si on regarde bien, c'est l'accumulation de diagonales. On voit plein de diagonales partout, vous voyez, de tous les côtés. Et puis, des triangles pyramidaux. Beaucoup de triangles, vous voyez, qui se dessinent. Alors, cette accumulation de lignes diagonales qui se bousculent et s'entre-découpent permettent de faire bouger l'œuvre. On voit quelque chose qui se crée, si on regarde bien l'œuvre, voyez, quelque chose qui percute. Hein. Et l'effet d'amplification du mouvement étant par ailleurs restitué grâce à l'alignement serré et sans discontinuer. On voit bien que l'artiste fait du mouvement l'objet même de son tableau. Ce qui fait l'œuvre, c'est le mouvement. Cette réussite est due aux tracés pyramidaux qui apparaissent en formation groupée. On a vraiment l'impression que les soldats marchent comme un seul homme et au pas cadencé. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On a tout à fait cette impression-là. Et c'est restitué par cette amplification du mouvement, hein, qui est donnée par l'alignement serré, comme on dit, et sans discontinuer, de toutes ces diagonales, oui, et puis ces tracés pyramidaux qui donnent une force, un mouvement assez considérable. Et qui signifie toute l'œuvre, finalement. Elle résume toute l'œuvre, ces soldats en marche. Même chose pour... Alors là, d'autres... Bon, ça, je passerai après. Même chose pour Marcel. Alors, vous connaissez, c'est nu, descendant l'escalier, en 1912, qu'il a créé ça, Marcel Duchamp. On est dans la même veine. Vous voyez, j'ai parlé de Jacques Villon. Lui, il a dessiné aussi le mouvement, vous voyez. Mais un mouvement qui est plus proche de la chronophotographie de Marais. Et ça va déranger certains membres de la section d'or de Puteaux, qui vont le faire reprocher d'être trop près des futuristes, du mouvement futuriste italien. Bon, un reproche qui est pas très fondé et qui a beaucoup blessé Marcel Duchamp. Et à partir de 1912, il a quitté le groupe. Bon, il avait toujours des relations avec ses frères, mais il a quitté le groupe, il a arrêté même de peindre vraiment de manière traditionnelle. C'est le moment de sa rupture, c'est le nu descendant l'escalier. Et pour l'autre frère, c'est le grand cheval. Le Grand Cheval de 1916. Et sculpture qui réussit une analogie étonnante entre le cheval et la machine. Oui, on n'a pas l'impression que c'est un cheval, d'ailleurs. Hein? Et la perfection du mouvement cher au cubiste et à la section d'or. Vous voyez, là, il a fait quelque chose de très parfait, de très beau, d'ailleurs. Et ce qu'il va dessiner, je disais, Raymond Duchamp-Villon, c'est le mouvement qui va apparaître en Russie, constructivisme. Vous voyez, c'est très fort ce qu'il a fait. Donc, ses frères Duchamp sont extraordinaires. Autant les peintres que le sculpteur, vous voyez. Donc, ils ont apporté une vision nouvelle de l'art. Vous voyez, c'est tout à fait, quand on parle de cubisme, on oublie qu'eux, ils ont apporté cette partie de la réflexion, du côté rationnel. Vous voyez. Et moyen pour. Et Jacques Villon, la géométrie, c'était un moyen d'accéder, d'atteindre l'absolu. Oui. Mais plus loin encore, il va jouer sur la couleur. Et il va découvrir le rôle de la couleur vers 1920. Alors, on a vu les formes qui étaient tracés pyramidaux, les diagonales serrées, etc. Donc, ce qui était vraiment proprement issu du cubisme. Mais il a fait une autre recherche qui est aussi importante, c'est la fonction de la couleur. Il va jouer beaucoup sur les trois couleurs primaires, le jaune, le bleu et le rouge. Bon, ça, c'est pas tellement rouge, mais c'est le rouge, normalement. Et c'est les trois couleurs primaires. Donc, encore, le chiffre 3, vous voyez, il va jouer là-dessus. Et pour lui, le tableau devient l'espace couleur de la lumière. C'est la lumière qui est sujet et non plus objet. Alors, ça paraît abstrait ce que je dis. Par exemple, l'œuvre Amro, qu'il a créée en 1931, c'est les couleurs qui font l'objet, qui font les formes. C'est les couleurs qui sont à l'origine des formes. Oui, c'est tout à fait particulier. Donc, il veut faire de la couleur le sujet de l'œuvre et non plus l'objet qu'on utilise. Donc, vous voyez, c'est encore une autre direction qu'il a réussi à entreprendre dans sa peinture, c'est de faire de la couleur le sujet même, celle qui prédomine dans le cercle chromatique, c'est celle qui s'impose grâce au cercle chromatique. D'ailleurs, on voit beaucoup d'autres... Bon, c'est pas dans l'ordre, excusez-moi. Mais là, vous voyez, on voit d'ailleurs une œuvre aussi qui apparaît. Je ne sais plus comment elle s'appelle. C'est l'espace ou le cheval de course. Le cheval de course. Bon, on voit une œuvre aussi. Bien sûr, il y a des formes cubistes qui se dessinent. Mais on est moins dans les soldats en marche. On est déjà plus dans la couleur, là, vous voyez. Parce que, regardez, les cheveux en marche, en reprenant au début, il y a très peu de couleurs. C'est triste. C'est pas très radieux. Ce qui prédomine, c'est pas la couleur. C'est les formes à serrer, c'est les diagonales, c'est la géométrie. C'est ça qui importe. Or, sur le tard, il va découvrir un rôle important dévolu à la couleur. Et c'est venu à partir de 1920. Là aussi, c'est une œuvre qu'il a créée. C'était l'espace, 1932. Donc, bien sûr, on est dans un domaine de la géométrie encore. On est proche aussi de Delaunay, vous voyez, avec les cercles et tout. Mais la couleur devient plus prégnante, vous voyez, devient plus importante dans ses œuvres. Bon, alors maintenant, on va parler... Bon, je suis dans les temps. On va parler de la partie cathédrale. Parce que c'est singulier, cet artiste. Pourquoi on va l'appeler pour des vitraux d'une cathédrale? Excusez-moi, je veux boire. J'ai un peu soif. Là, voici la cathédrale de Metz, 44. Il y a eu pas mal de destructions. Bon, on voit pas les destructions qui ont eu lieu sur la cathédrale, mais il y en a eu pas mal. Donc, comme je disais, des vitraux, des baies entières éventrées. Ça castagnait pas mal, hein, 44 côté est, à mettre. Pas seulement, parce que côté de chez vous aussi, ça a dû aussi... Mais là, la cathédrale a beaucoup souffert. Donc, ce qu'on faisait à l'époque, c'est pas du rustinage, mais on faisait du pastiche. C'est-à-dire, on va voir une œuvre ici, vous voyez, ce qu'on faisait, là, en 55, les fenêtres hautes. On voyait les fenêtres hautes. Attends, je ne sais pas si on peut agrandir. Oui, on va agrandir. Je vais agrandir. Vous voyez ce qu'on faisait, de genre de création. Mais c'est, on n'est pas la seule cathédrale à avoir ça. Hein. Beaucoup ont été malheureusement touchés par ces mouvements de... Oui. Donc on faisait quoi ? On faisait du conformisme, on faisait du Saint-Sulpicien, des évêques, vous voyez. Il n'y a rien, c'est surfait. C'est, vous voyez, c'est pas l'art de notre époque, ça. Vous voyez. Bon, ça fait plaisir peut-être à des gens croyants qui n'ont pas beaucoup de... vous voyez, mais celui qui est un peu sensible à l'art contemporain, à l'art moderne, c'est figé. Comme, vous voyez. Bon, c'est gentil, ça rentre bien dans les cathédrales, mais des gens comme... Le père Couturier, regardez, alors lui c'est le père Couturier, Alain Couturier, qui était un bon il n'est pas habillé en dominicain, mais c'est un dominicain, et c'était aussi un peintre. Il a dit, mais arrêtons de faire des conneries, faisons appel aux artistes de notre temps. Et dans la revue des années 50, il était comme une voix importante de l'Église, mais la partie éclairée de l'Église, qui a dit, mais non, renouons avec le passé glorieux de l'Église, de la Renaissance, on faisait appel à des grands génies de la peinture, et donnons à nos cathédrales les plus grandes signatures de notre temps. C'était intéressant comme vision. Mais alors, le problème, il va se heurter à pas mal d'obstacles. Ça, c'est Robert Renard, qui est l'architecte en chef des monuments historiques à Metz, qui, lui, était aussi peintre. Donc, vous voyez, donc il avait sensibilité de peintre, parce que c'est pas évident, quand vous êtes architecte des monuments historiques, vous avez une formation d'architecte et tout, mais c'est pas dit que vous étiez doué pour être sensible à la peinture, ça c'est autre chose, c'est un autre domaine. Lui, il était sensible à la peinture et aux peintres de son temps. Donc, il a dit, ok, chiche, et il a envoyé un gars, son adjoint, Jean de Dieu, qui vit toujours d'ailleurs, qui est devenu mon ami, d'ailleurs Jean de Dieu, qui a 93 ans, et lui, il a commencé à toquer aux portes des artistes. Il a été voir à Cannes, à la villa, je ne sais plus comment ça s'appelle, à Cannes, où habitait, il fallait le faire, il a une vingtaine d'années, il était toqué à la porte de Picasso, et puis là, il était avec des cartons, des projets pour décorer des églises et la cathédrale de Metz. Et puis là, Picasso a dit oui, pourquoi pas. Et là, parce qu'il avait toujours à table beaucoup de monde, Picasso, et il y avait Cocteau. Cocteau a dit, moi ça m'intéresse. Et c'est là que Jean de Dieu, le jeune Jean de Dieu, a commencé à entreprendre des relations avec les artistes, à les faire venir à Metz pour qu'ils puissent faire des verrières et remplacer celles qui sont éventrées par de l'art contemporain. Donc il y a eu beaucoup de refus, parce que ça, des artistes étaient intéressés en général, même Picasso. Mais il a été refusé, je vous ai expliqué, comme léger parti communiste. Cocteau recalé à la cathédrale parce que, il sentait un peu le soufre. Bon, ça faisait beaucoup d'obstacles. Alors Robert Renard, j'ai eu son fils il y a pas longtemps, il m'a dit, mais il en souffrait. Il a dû chaque fois, et puis il décolibait pas seulement de la part du chapitre, des chanoines, de l'église, mais et aussi des inspecteurs généraux, qui comprenaient pas, mais qu'est-ce que c'est cette imbécilité de faire venir les artistes, restons comme on fait d'habitude. Vous voyez, donc, il dérogeait, si vous voulez, à ce qui se faisait. Et dès que vous êtes quelqu'un qui ouvrait de nouvelles voies, vous êtes l'objet de toutes les attaques, et ce qui a été le cas, vous voyez. Donc, il a quand même continué, et c'est là qu'il a pu convaincre pour faire admettre un gars comme Jacques Villon. Bon, Jacques Villon, on ne peut rien dire, c'est quelqu'un qui avait un passé remarquable, il n'était pas ni au Parti communiste, ni une vie. C'était quelqu'un de. Bon. Sur lesquels on n'avait pas beaucoup de choses à dire, de moins l'Église n'avait pas de reproches à lui faire. Mais on lui a imposé aussi des thèmes. C'est-à-dire que la cathédrale, on ne va pas le laisser libre. Alors, je fais une aparté. Quand j'ai parlé de Cocteau, Cocteau a été recalé à la cathédrale. Il devait faire une baie, il a été recalé. Mais heureusement, lui, il avait des appuis, Cocteau. Il était à l'Académie française, et puis il avait comme ami, pas n'importe qui, Malraux. Et Malraux, il a dit, bon, ben, c'est comme ça, on va te donner une église à Metz, et tu seras libre de faire ce que tu veux. Et c'est pour ça qu'il a fait l'église Saint-Maximin. Et là, il a pu faire ce qu'il voulait. Pendant 50 ans, plus personne n'a parlé des vitraux de Saint-Maximin. Parce qu'il n'y avait ni chemin de croix, ni truc chrétien, ni rien du tout. Il n'y avait qu'une symbolique mythologique, des trucs dingues, mais des trucs de dingue. Il a fait ce qu'il a voulu. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire. Et que moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais comment ça se fait que personne n'en parle? Parce que les prêtres étaient désarçonnés. Ils ne savaient pas quoi dire. C'est vrai que dans une église, vous voyez, aucun vitraux, pas de croix, pas de chemin de croix, pas de Vierge Marie. Il avait que ces symboliques. Et là, il avait fait un truc énorme, Cocteau. Dans la verrière centrale, il a fait l'homme au bras levé. C'est en fait le chaman qui implore les dieux, vous voyez. Faites ça dans une église. Il fallait avoir un culot pas possible. Mais c'est énorme ce qu'il a fait. Et pas seulement, c'est pas de la provocation, parce que lui, il voyait ça comme ça. Parce que lui, sa façon de faire, c'était la mythologie. Il sentait plus à l'aise, si vous voulez, dans la mythologie que dans l'Écriture sainte ou dans le Nouveau Testament. Bon, il se dit, je suis un bon chrétien, mais un mauvais catholique, hein, ce qu'il disait souvent. Mais bon, et ça a donné une œuvre extraordinaire. Et il a fait une vingtaine, ou je ne sais plus combien de verrières, mais exceptionnelles. Et moi, et j'ai commencé à décrypter ce travail, et c'est à partir de là que l'éditeur est venu à m'a demandé de travailler les autres, donc Jacques Villon. Donc, Villon a été le premier en 57. Cocteau, il a fait l'église Saint-Maximin, c'est les années 62-63. Bon, Jacques Villon, 57. Alors, Jacques Villon, 57, après l'idiotie, vous voyez, qu'on a imposé les Godins en 55, on a dit, terminé. Le couturier a demandé, arrêtons de faire nos bêtises. Parce que Godin, c'est qui? C'était un maître verrier du centre de la France. C'est pas un artiste. Il faisait quelque chose d'une bonne facture, classique, qui dérangeait personne. Vous voyez, il mettait des saints, des évêques et tout. Bon, ça dérangeait personne. Mais le lieu est plus propice à quelque chose de plus élevé, plus intelligent, vous voyez. Alors ça a été... Bon, là, je vous montre la cathédrale comme elle est actuellement. Bon, elle est assez vaste. Alors, ce qui est intéressant à la cathédrale de Metz, c'est qu'elle a les verrières les plus importantes de France. Elle a 6500 mètres carrés de verrières, oui. Donc, il y a de quoi faire. C'est pour ça qu'il fallait faire quelque chose à Metz, parce qu'il y a une surface tellement énorme qu'il y avait du travail pour tout le monde. Vous voyez, là, ça, c'est la cathédrale de Metz. Alors, ça, c'est la partie qui concerne Jacques Villon. Jacques Villon, on lui a demandé de faire tous les vitraux de la chapelle du Saint-Sacrement, une chapelle qui est dans la cathédrale. Donc, on lui a donné des thèmes. Le premier thème, ici à gauche, c'est l'Exode, c'est la sortie d'Égypte du peuple juif, à la Pâque, vous voyez, sortie d'Égypte. Deuxième thème, on voit un peu le truc, là, ici. Bon, on ne voit pas bien, mais après, ça ira mieux, parce que je donnerai B par B. Deuxième thème, c'est la scène, c'est le dernier repas du Christ avant la crucifixion. Troisième B, c'est la crucifixion, avec le soldat qui donne le coup de la lance du côté du Christ, vous voyez. Quatrième scène, noce de Cana, qui transforme l'eau en vin. Et cinquième scène, on voit moins bien, mais on le verra mieux après, c'est le mont de l'Horeb. Le mont de l'Horeb, c'est le passage où, dans le désert, Moïse, avec un bâton, tape le rocher pour faire jaillir de l'eau. Et bon, ça, c'est les thèmes de l'Ancien Testament. Bon, on voit mieux maintenant. Ça, c'est le premier thème, c'est sortie d'Égypte. Alors, j'essaierai peut-être de faire un peu, d'agrandir, ce serait pas mal. Alors, au milieu, on voit bien un agneau, vous voyez, au milieu. Bon, il faut... Un agneau. Ici, à côté, les Juifs avec un bâton, prêts à partir. Ils mangeaient debout, l'agneau pascal, prêts à décamper de... Bon, je raconte vite, hein, de l'Égypte, parce que, bon, il y a eu comme des problèmes pour eux en Égypte. Et ensuite... Voilà, ça c'est... Et vous voyez, en bas, on voit bien le travail assez remarquable de Villon en bas. Moi, j'essaye de... J'essaye de vous donner ça. Un travail serré. Vous voyez, il travaille beaucoup. J'arrive pas à descendre. Il travaille beaucoup avec les... Comment ça s'appelle la géométrie, comme j'ai dit. Et on voit d'ailleurs... Je vais reprendre. Vous voyez, en bas, en dessous de l'assiette où il y a l'agneau pascal, on voit toute l'accumulation aussi de diagonales, de formes géométriques très acérées, des triangles, des isocèles et d'autres, vous voyez. Beaucoup d'accumulation créée pour le mouvement, parce que les Juifs, là, dans cette scène-là, étaient sur le départ d'Égypte. Donc, ils s'alimentaient en vitesse du repas pascal, le dernier repas pascal, pour sortir d'Égypte et se dépêcher de, parce que Pharaon risquait justement de leur faire encore des misères. Donc ils étaient prêts sur le départ. Et c'est par l'accumulation de formes géométriques, on voit dans le bas, que ça dessine aussi un mouvement. Voyez. Donc on est toujours dans la même thématique. Là, c'est le dernier le repas, la scène. Alors la scène, c'est le dernier repas du Christ avant, bon, avant la passion. C'est le dernier repas du Jeudi Saint. On voit tout le long les têtes des différents. Le premier, je crois, qui montre la main de gauche, c'est Judas, et les autres disciples le long. Et le Christ est en face, mais on le voit même plus d'ailleurs. Il est tellement embrouillé par toutes les par réseaux, si vous voulez, de lignes et tout, qu'on le voit disparaître. Il est presque plus présent, d'ailleurs. Là, c'est la crucifixion. Alors, un travail remarquable, parce qu'on lui a imposé ce thème. Mais, une crucifixion, mais il a choisi le récit de Saint Jean. Le récit de Saint Jean qui permet, justement, de développer l'histoire de la lance. Et pourquoi la lance l'intéresse? Parce que c'est une diagonale, entre autres. Attendez, on va voir ça un peu mieux. Excusez-moi, je ne suis pas un doué pour les agrandissements. Alors, je ne sais pas si vous voyez la lance, là. Ouais, on la voit bien. Hein, le centurion, ou du moins le soldat romain, qui donne un coup de côté, et selon l'évangile, du sang, de l'eau coule du côté du Christ. Hein. Donc, ça, c'est le récit de Saint Jean. Alors pourquoi ça l'intéresse le récit de Saint Jean? Parce qu'il va donner une dimension intéressante, même théologique, grâce justement à ce travail qu'il va fournir. Un travail de découpe encore, d'organisation, de géométrie. Il met en relation trois personnages. Il met en relation le soldat, le crucifié, et puis un troisième thème qu'on découvre après, c'est nous-mêmes. Alors pourquoi nous-mêmes, donc toujours le chiffre 3, nous-mêmes, parce que cette lance, c'est un vecteur, il dessine un vecteur qui conduit à relier le point de vue au point de fuite. Le point de vue, c'est quoi? Le point de vue, c'est la lance qui transperce le côté du Christ. Mais le point de fuite, c'est en bas. Vous voyez, je ne vois pas. On verra mieux. Le point de fuite, c'est en bas. C'est quelque chose qui descend vers nous, qui nous atteint nous aussi. Donc, il relie le spectateur au divin par la lance, par le phénomène de la diagonale. On appelle ça un axe déictique. Vous voyez, c'est dans la linguistique. Ça permet, si vous voulez, de donner un sens, une relation, comme à démontrer quelque chose. Un vecteur qui relie le point de vue au point de fuite. Cette lance transperce le Christ par le haut et également le spectateur par le bas. C'est le point de fuite. Donc, ça permet la liaison avec le divin par l'intermédiaire du Christ transpercé. C'est pour ça que je disais que le cubisme de Villon, dans cette œuvre, conduit à une résonance tout à fait théologique, donne un sens théologique. C'est-à-dire, cette œuvre, qui est banale, qui est le récit de Saint Jean, il leur donne une autre direction, plus intime, pour le croyant, parce qu'elle nous permet de nous transpercer nous-mêmes. Oui. Elle nous rapproche de l'œuvre, oui. Et grâce, justement, à ces diagonales. Donc, c'est un spécialiste des diagonales. Hein. On l'a vu déjà dans les soldats en marche et tout. Donc, ici, dans ce travail du vitrail, il a joué là-dessus. Perspective de la lance. Il y a d'autres choses aussi que c'est intéressant. C'est que le chiffre 3 qui revient souvent dans son travail, les positions du bois aussi. Le bois est utilisé, les Juifs qui sortent d'Égypte avec le bâton. La croix, c'est un bâton. Horizontal et vertical. Et puis, il y a le rocher de l'Horeb qui est horizontal. Vous voyez, trois formes. Vous voyez, trois formes d'utilisation du bâton. La lance du Christ, comme j'ai dit, qui met en relation trois personnes, c'est-à-dire le soldat, le crucifié, puis le spectateur. Et ensuite, principalement, on verra dans beaucoup d'œuvres, il utilise les trois couleurs primaires, c'est-à-dire le bleu, le rouge et le jaune. Oui, toujours on revient à ce souci mathématique du tracé pyramidal, oui, tracé pyramidal, le triangle. Oui. Donc son cubisme ici, il va donner une dimension théologique indéniable. Et pas seulement la perspective de la lance, mais aussi, comme j'ai dit, l'utilisation différente du bois. Dans le vocabulaire un peu spécieux, du moins technique des linguistes, on parle ça d'une chaîne syntagmatique de la croix. C'est-à-dire on découvre la chaîne syntagmatique de la croix dans les différentes transformations du bois. Le bois du bâton à la sortie d'Égypte, le bois de la table lors de la scène, le bois de la croix et le bois utilisé par Moïse qui frappe le rocher. Les façons différentes d'utiliser le bois conduisent toujours comme un objet de salut et puis de torture à la fois. De salut et de torture. Oui. Donc, il joue là-dessus. Un cubisme qui conduit, enfin, à quelque chose aussi qui paraît radieux dans l'œuvre. Alors, on va voir. Oh, je vais passer. On va regarder. Bon, là, on voit mieux l'effet de la lance. Alors ici, son cubisme, il utilise beaucoup, on voit c'est la crucifixion. Alors j'ai fait, si vous voulez, le détail du Christ en croix. On a du mal d'ailleurs à distinguer le Christ en croix. Tellement qu'il est embrouillé par une architecture d'accumulation de triangles, de formes géométriques les plus... vous voyez, on a du mal à distinguer. Et c'est volontaire ce qu'il fait. Parce qu'il voit le cubisme. Il ne faut pas oublier que le cubisme, c'est une école de déconstruction. Parce qu'on voit la déconstruction de quoi ? De l'art de la Renaissance, de l'art figuratif. Donc, le cubisme arrive aussi dans un temps donné de la peinture pour déconstruire, pour amener à d'autres formes de peinture, de d'autres directions de la peinture. Ce sera pour certains l'art abstrait, pour d'autres ce sera une autre type de figuration, mais... Le cubisme, c'est aussi une école de déconstruction. Et il l'utilise très bien pour le Christ en croix, pour détruire le personnage, pour dire que le Christ sur la croix a été complètement lacéré, mis en pièces. Oui. Et c'est un dessin qu'il utilise beaucoup, ce travail compliqué. Et on arrive du mal même à distinguer le Christ, une forme humaine, dans ce travail. Malgré tout, ça, c'est la partie au-dessus de la croix. Il nous donne un monde qui est différent, si on regarde bien, parce qu'il faut bien regarder son travail. Attendez, je suis en train de voir, oui, si je peux agrandir, ce serait pas mal. Alors, au-dessus de la croix, c'est bizarre comme construction. On a l'impression d'une architecture, oui, d'une architecture, d'un ordre. Il s'abandonne à une vision tout à fait différente. Au-dessus de la croix, un autre monde. Comme un monde en chantier, oui, qui s'approche, qui s'apparente à une œuvre musicale presque. On a l'impression qu'il y a des verts, et les couleurs vertes qui apparaissent, qui n'apparaissaient nulle part ailleurs, comme une sorte d'un univers radieux qui nous donne à vivre. C'est pourquoi ces vitraux de la cathédrale de Metz ont été comparés à un chant pascal. Certains critiques d'art ont dit, en voyant en particulier cette scène-là, c'est une œuvre qui s'apparente à une œuvre musicale, comme une symphonie. Oui. Donc, qui apparaît déjà à la lumière de la future résurrection du crucifié. Là, au-dessus de la croix, on est déjà au-delà de la crucifixion. On est au lendemain de la résurrection. Il s'approche là de la musique, par l'ordre et la liberté qu'il donne à son œuvre, comme il nous libère après la croix, comme la résurrection qui nous libère de la mort, d'une certaine façon. Alors, bien sûr, on a parlé de chant pascal, et Claudel disait que tout le mystère aussi, c'est lorsqu'on ne peut rien dire. Il y a des façons aussi de dire. Le plus beau, il disait, souvent, c'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. Donc, on n'épuisera jamais totalement une œuvre, on n'aura que des approches différentes. Selon notre sensibilité de chacun. Ce que je donne, c'est ma vue à moi, c'est pas de la science, c'est une approche personnelle que je ressens au contact de cette œuvre. Mais cette œuvre nous amène à d'autres choses. Et comme disait Claudel, ce qu'on ne comprend pas, qui est peut-être souvent le plus beau, vous voyez, donc à découvrir encore. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est un témoignage que j'ai eu récemment, Pour terminer, une approche, quelqu'un justement qui m'a écrit, c'est Jean de Dieu qui était l'adjoint de Robert Renard, donc qui avait été voir en 1952 l'atelier de Jacques Villon à Puteaux. Alors, je vous en parle, mais je ne lirai pas tout, hein, mais ça donne un peu une connotation plus personnelle, plus une chaleur qui transpire de l'atelier de Puteaux. L'atelier de Jacques Villon à Puteaux n'avait rien d'un atelier somptueux. Il était niché dans une arrière-cour accessible par un passage boueux l'hiver, fleuri l'été, avec des haies en buis taillé. Il est très précis, on voit que c'est un architecte des bâtiments de France, hein, il détaille bien. La première fois que j'ai découvert ces lieux, c'était en compagnie de Fouli Elia, un photographe ami qui souhaitait profiter de mon rendez-vous avec Villon pour faire un reportage de ce peintre, dont la notoriété à cette époque semblait s'établir de plus en plus. L'idée de Durbach, c'est un autre, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, un autre peintre de l'époque que connaissait bien Jean de Dieu. L'idée de Durbach de proposer à ce peintre la réalisation, c'est Durbach qui a proposé la réalisation d'un programme de vitraux à la cathédrale de Metz, était la raison de mon rendez-vous et à cette occasion de préciser dans quelles conditions nous pouvions travailler sur ce projet. C'est tout d'abord sa femme qui nous ouvrit la porte qui donnait sur le jardin commun à d'autres ateliers. À d'autres ateliers, parce que, comme je vous ai dit, il y avait d'autres Glaise, Kubka, etc., qui accompagnaient Jacques Villon. Il n'était pas tout seul, oui. Nous entrions soudainement dans l'univers de Villon. Sa femme, petite et maigre, légèrement courbée par l'âge, nous présenta au peintre qui parut affolé d'avoir à jouer un rôle plutôt inhabituel. Il n'aimait pas qu'on le bouscule trop. C'est quelqu'un de discret, il n'aimait pas trop. Bon, brave homme, on voit une quatrième année, mais qu'on le bouscule pas trop. Vous rappelez qu'il a dû quitter Montmartre, il y avait trop de fêtes pour être à la quiétude, vous voyez, de Puteaux. Bon, c'est tout à fait l'homme, hein, il n'a pas changé. Sa femme, petite et maigre, légèrement courbée par là, nous présenta au peintre. Son sourire et sa gentillesse détendent soudainement l'atmosphère. Il nous présenta l'atelier tout en acceptant sans difficulté que Fouli Elia prenne quelques photos. Cet atelier ressemblait à l'étalage des puces de la porte de Clignancourt. Des tableaux rangés un peu partout, comme une priorité des œuvres de Marcel Duchamp, des piles de journaux par terre ou sur des étagères avec des livres, des objets de toutes sortes, des chiffons, un amoncellement de boîtes et de pinceaux, des plateaux couverts de couleurs, une grande toile sur un chevalet sur laquelle Villon avait peint un énorme Bouvard et Pécuchet en noir fait avec des pochoirs. Invité à nous asseoir sur des chaises quelque peu branlantes, je développais devant lui le rouleau de canson sur lequel j'avais dessiné les fenêtres de la chapelle du Saint-Sacrement à Metz. C'est sur ces relevés que Villon devait peindre les fameuses maquettes qui sont au musée d'art moderne de Paris, dont le clergé de Metz avait programmé les sujets pour les 5 fenêtres. Villon a accepté d'emblée le travail à faire et c'est très chaleureusement que nous avons pu déguster un excellent café de Madame Villon avec, pour lui, l'engagement de nous remettre son travail dans quelques mois. J'avais appris ce jour-là que Villon prenait son inspiration le plus souvent dans le dictionnaire Larousse. Avait-il besoin d'un costume, d'un décor, d'une posture? Les petits dessins du Larousse l'inspiraient. Son dessin était à la fois vif et réfléchi. Les admirables croquis préalables qu'il fit à cette époque pour Metz en témoignent. Mais le début de cette aventure fut néanmoins difficile. Bon, je vous raconterai pas tout le reste, mais c'est énorme. Et ça, c'est un témoignage de Jean de Dieu qui m'a envoyé il y a quelques semaines. Oui. Donc, il est toujours vivant, vous voyez, quelque part. Donc, c'est un témoin direct de Villon qui l'a rencontré, qui l'a incité à faire ses vitraux et qui vit encore toujours. Alors, si vous avez des questions, peut-être... Bon, c'est un peu pas très académique, ce que je viens de vous dire, mais c'est un peu brouillon quelquefois, mais c'est un peu par inspiration que je vous dis mais ce que je ressens, mes émotions et tout. Donc, c'est pas toujours très coordonné, mais enfin. Ah, très bonne question. C'est vrai, vous avez raison. Alors, le problème, comment travailler le vitrail? Il n'est pas maître verrier, ni Cocteau d'ailleurs, hein, ni Cocteau, ni Chagall. Donc, il faisait des maquettes préparatoires. Alors Cocteau, il faisait des maquettes sur des grandes, même de grandeur nature, des vitrails, sur panneaux isorel. Et il peignait dessus. Et à partir de là, le maître verrier essayait avec... mais le problème, c'est qu'il ne savait pas le sens des... le problème, c'est... Il y a le... Comment ça s'appelle ? À l'intérieur, il y a des plombs. Le passage des plombs. Ça, il ne savait pas. Donc, c'est au maître verrier de lui indiquer. Alors, pour Villon, maître verrier, c'est Simon Marc de Reims qui a œuvré, qui, à partir des maquettes préparatoires, qui sont vraiment très bien définies, au détail près, il a établi les vitraux. C'est Simon Marc de Reims, les grands verriers de Reims, ceux qui ont fait la cathédrale de Reims, etc. Donc, c'est des maîtres verriers depuis une famille depuis le XVIIe siècle. Pour Cocteau, il s'est fâché avec Simon Marc, et c'est les Brières de Levallois-Perret. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, les Brières, c'est aussi une grande famille de... Donc, ils passent tous, si vous voulez, l'artiste fait son projet sur la maquette, et à partir de là, le maître verrier, mais exécute au plus fidèle par rapport à la maquette. Non, 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 ça c'est volontaire, ça correspond pas, ça c'est la volonté, c'est la, on appelle ça la grisaille. La grisaille, c'est de la peinture mise sur le verre, et puis après mis au four à 700 degrés, ça bouge plus, voyez. Donc ça c'est volontaire. C'est la volonté du peintre de vouloir avoir une atmosphère très hachée, très hachurée, un décor arachnéen, oui, une sorte de volonté de proposer quelque chose d'assez complexe. Hein. Ça, c'est l'œuvre de Villon. On voit bien, elle est complexe, elle est très architecturale. Et puis, en parlant d'autres connaissances, à la suite de l'ouvrage que j'ai écrit sur Jacques Villon, j'ai eu la chance d'avoir comme correspondant quelqu'un qui a connu, qui vit encore, qui a connu bien Marcel Duchamp et Jacques Villon. C'est Arturo Schwartz. Vous pouvez regarder sur Wikipédia, c'est une pointure. C'est mon fils qui, par des recherches, a découvert ses coordonnées. C'est quelqu'un c'est une pointure, c'est Arturo Schwartz, qui était le plus grand galeriste à Milan, des surréalistes, et qui était l'ami personnel de Marcel Duchamp et de, comment il s'appelle, du pape des surréalistes, comme ça, André Breton. Donc c'est quelqu'un qui était l'ami d'André Breton et qui vit encore. Et alors j'ai pu le joindre, d'abord par téléphone ou par mail plutôt, et il m'a invité chez lui à Milan, et là j'étais dans toutes les collections. Et il avait sur sa table à côté, ma femme était là à côté, mais elle n'a pas pu tout photographier, mais il y avait un jeu d'échecs. Échecs qui a été travaillé par Marcel Duchamp, et des œuvres de Marcel Duchamp, c'était quelque chose d'inoubliable. Alors il m'a parlé, effectivement, il m'a dit, effectivement, c'est quelqu'un de très discret, très tout en douceur. Marcel, lui, était quelqu'un de très cool, pas du tout attaché à des théories, etc. Très libre, très libre, très libre. Très libre. Il était au niveau, oui. Alors, ce qui est un peu pas fâché, mais Arthur Rochefort dit, ouais, mais c'est pas le genre de Marcel Duchamp de faire ça dans une église. C'est vrai qu'il était athée. Mais un athée mystique. C'est ça qui est marrant. Parce que lui, l'œuvre du vitrail qu'il a faite, c'est le grand verre. À sa façon, oui. Pas dans une église, pas dans une cathédrale. Mais il a touché aussi le verre. Hein. Donc, la famille Duchamp avait une approche quand même avec le verre. Oui. Donc, c'est pas innocent non plus. Oui. Donc, les deux frères se suivaient quelque part. Oui. Lui, c'est autre chose, disait Jacques Villon, en parlant de Marcel. Mais il y avait quelque chose qui les rassemblait, quelque chose qui était en commun. Hein.
Et est-ce qu'on sait si Marcel a vu ces vitraux-là ?
Je ne sais pas, je ne sais pas. C'est comme j'ai découvert aussi une chose, mais au fur et à mesure, on découvre. Je travaille beaucoup sous Cocteau, je vais sortir un deuxième livre sous Cocteau. Et là, j'ai découvert que Cocteau, ce qu'il a fait à Saint-Maximin, c'est une influence de Marcel Duchamp. On ne connaît même pas les rapports entre Cocteau et Marcel Duchamp. Et ils existent pourtant. Et les deux, ils étaient très proches. Mais comme ils ne pouvaient pas le montrer, à cause de qui ? À cause de Breton. Breton vouait une haine pas possible à Cocteau, vis-à-vis de Cocteau. Parce que c'était l'héritage d'Apollinaire. Apollinaire, quand il est mort, qui va être le fils des poètes ou le prince des poètes ? Alors c'est Cocteau, pour l'un, et puis Breton, lui, c'est moi. Oui, donc ça a commencé comme ça. Oui. C'est l'héritage de... Et donc, dans le clan des surréalistes, il y avait Breton qui dominait tout ça, mais qui était pire que le pape, c'est-à-dire qu'il excluait, qu'il faisait des oukases, etc., qui était vraiment d'une intolérance pas possible. Et en parlant de Cocteau, il disait un cocktail, des Cocteaux, et pour ridiculiser Cocteau. Bon, mais malgré ça, on voit que Marcel, qui était dans le groupe très proche de Breton, ça n'empêche pas d'avoir des bonnes relations avec Cocteau. Donc c'était quelqu'un tout à fait indépendant, qui n'était pas doctrinaire, qui ne suivait pas, parce que c'était le chef de file, aveuglément, Breton. Oui. Donc il n'avait pas peur de s'échapper de l'emprise de Breton, et Breton ne pouvait rien lui dire. Parce que pour Breton, c'était l'homme le peintre le plus intelligent de France, etc. Donc il était émerveillé par Marcel Duchamp, et Marcel Duchamp le savait. Donc il en profitait de cette liberté-là. Et il avait des très bonnes relations, même très cordiales avec Cocteau, et une influence notoire entre les deux. Parce que, comme je disais à M. Castanet, j'avais dit que dans les vitraux de Cocteau, il y avait l'homme au bras levé, le chaman. Et on a une œuvre de 1911 de Marcel Duchamp, le jeune homme et la jeune fille au printemps, c'est ça, 1911, et j'ai posé la question. Et Arthur Rochefort a fait un bouquin là-dessus, et il a fait une analyse. Et il a parlé du chaman, et l'invocation des dieux, et tout. On retrouve les mêmes thèmes chez Cocteau et chez Duchamp. Comme quoi, vous voyez, on arrive à avoir des parallèles, des pistes communes, vous voyez. Et ça, c'est intéressant. Et j'ai demandé à Arthur Rochefort, est-ce que vous êtes d'accord si j'ai fait un article là-dessus? Il a dit, mais moi, on peut pas négliger cette piste-là, elle est réelle. Le fait qu'ils aient des relations, c'est tout à fait réel. Personne n'en parle, mais c'est vrai. Et j'ai découvert en plus dans le journal personnel de Cocteau, de 51 à 63, il est mort le 11 octobre 63, il parle des lettres qui s'envoient entre Cocteau et Marcel Duchamp. Donc, il y a bien une relation qui existe. Oui, dans les 80 ans. Bon, c'est pas lui. Vous voyez, il a fait des maquettes. Et puis, Jean de Dieu, dont je lui ai parlé, il l'aidait à faire les maquettes, etc. Hein, parce que, bon, il ne pouvait pas, sur les grandes dimensions, il ne pouvait pas aller sur les échelles, tout ça. Ouais. Donc, il l'aidait à faire les maquettes grandeur nature. Mais c'était avec l'aide d'un jeune. Il était jeune, il avait une vingtaine d'années, Jean de Dieu, à l'époque, hein, et qui l'aidait. Mais toujours en fonction des dessins, les vrais dessins, ça c'est des dessins de Jean Villon, de Jacques Villon. Mais il trouvait toujours un maître verrier qui soit fidèle à l'exécution, parce que il allait voir à l'atelier du maître verrier, il ne laissait pas faire n'importe quoi. Vous voyez, au niveau des tons appliqués, de la restitution, vous voyez, entre le vitrail et puis la maquette, il y a une grosse différence souvent. Vous voyez. Donc, à l'exécution, il était là aussi. C'était un travail suivi quand même. Hein. C'était pas, on ne pouvait pas laisser comme ça, hop, je vous laisse la maquette, puis vous débrouillez. Oui. Et puis après, il y avait aussi le passage devant les monuments historiques, l'inspection générale. Alors il y a des inspecteurs qui disent, oh, c'est quoi cette tâche-là, oui. On voyait le... Bon, il n'a rien... Ah oui, justement. Est-ce que je vais dire... Est-ce qu'il l'avait dit, oui. Ah oui, l'inspecteur général à la réception des vitraux de la cathédrale. Je refuse ce panneau de l'agneau pascal, beaucoup trop blanc. Vous vous rappelez le truc? L'inspecteur général, à Villon, un grand peintre, c'est beaucoup trop blanc. Villon, qui était présent, m'a dit alors, je ne changerai rien. Et depuis cette date, le dit agneau pascal est toujours blanc. Non mais c'est ça qui est incroyable, c'est que les artistes, malgré le fait qu'ils étaient acceptés, ils étaient encore sur les oukases, des gens qui n'avaient aucune... Il n'y a rien à voir dans l'art, oui. C'était des inspecteurs d'administration, des architectes, certes, mais pas des artistes. Oui. Donc ils se permettaient de critiquer le travail d'un artiste. Ce n'est pas évident de faire rentrer un artiste dans une cathédrale ou dans un monument historique, oui. Oh, très bien, très bien. Sauf que, comme je disais à M. Castanet, le problème à la cathédrale de Metz, vous rentrez à la cathédrale de Metz, les gens ils plongent dessus. Oh, ils sont remis, ils font plein de photos. Alors moi, je pose des questions, je dis, vous savez qui c'est? Ah non, c'est Chagall. Les gens, ils vont à la cathédrale de Metz que pour Chagall. Ils voient quelque chose de moderne, tout de suite, qui est très lumineux. Hop, ils prennent des photos, même de la vidéo et tout. Je leur dis, écoutez, c'est un grand artiste, il s'appelle Jacques Villon, c'est le frère aîné des Duchamp. Oh! Il part tout de suite en courant. Il dit, mais c'est où Chagall? Je dis, c'est plus loin. Mais c'est ça, en fait. Merci, c'est bien.